Bonjour à toutes et à tous. Je profite du privilège d'être à ce micro pour vous présenter à tous en une seule fois mes vœux pour 2018. Que cette année soit bénie et j'aurai l'occasion, en conclusion du message, de préciser un peu plus quels sont les vœux que je formule. Un professeur d'une faculté de médecine commença un jour son cours magistral en amphithéâtre par ces mots. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler Et un étudiant complice écrit alors dans la salle, « La mémoire, monsieur !» Ah oui, c'est cela, jeune homme. Merci. Ce professeur feignait un trou de mémoire pour capter l'attention de son auditoire au début de son cours, mais cette anecdote humoristique nous rappelle, entre autres, l'importance de la mémoire. Qu'elle vienne à défaillir, comme dans la maladie d'Alzheimer, et nous voyons de suite les conséquences graves que cela entraîne. Il en est de même spirituellement. Oublier quelques principes fondamentaux peut nous amener à perdre le cap fixé par Dieu. Il est des commandements, des exhortations qu'il vaut mieux ne pas oublier. Mais on peut également constater qu'un excès de mémoire peut engendrer des troubles. Par exemple, revenir sans cesse sur un épisode malheureux de notre passé peut être une source d'angoisse, d'amertume, de rancœur, et cela nous mine de l'intérieur. Il est des choses qu'il vaut mieux oublier et d'autres qu'il vaut mieux ne pas oublier. Je me suis posé cette question, mais qu'en est-il de Dieu ? La question peut surprendre, est-ce que Dieu a de la mémoire ? Je ne sais pas ce que vous répondez à cette question, mais moi, sans réfléchir, je me dis, mais bien sûr que Dieu a de la mémoire. Dieu est omniscient, il sait tout. 1000 ans sont pour lui comme un jour. Il n'a pas le temps d'oublier. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, psaume 105. Mais se souvient-il de tout ou lui arrive-t-il de vouloir oublier ? Il y a aussi cette parole d'Ésaïe 43, 25 qui est reprise dans Jérémie et dans l'Épître aux Hébreux aussi. « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je vous propose donc une réflexion en 3 temps sur la mémoire. Nous commencerons par réfléchir sur la mémoire dans notre vie quotidienne, avec ce qu'elle nous apporte en positif, en négatif. Puis, nous verrons que nous sommes aussi assez paradoxaux. Il nous arrive de craindre que Dieu nous oublie, mais il nous arrive aussi de craindre qu'il se souvienne. Et puis, nous dresserons une petite liste, je n'ai pas du tout la prétention d'être complet aujourd'hui, des choses qu'il vaut mieux oublier et de celles qu'il vaut mieux ne pas oublier. Alors, tout d'abord, la mémoire dans notre vie quotidienne. Elle nous facilite la vie au quotidien. J'ai même failli mettre, elle nous rend possible la vie au quotidien. C'est parce que je me souviens de l'endroit où j'ai garé ma voiture que je vais pouvoir rentrer dans un délai raisonnable chez moi. Elle contribue à notre sécurité lorsque je me souviens que j'ai oublié de couper le gaz ou de fermer ma porte à clé. Mais surtout, elle nous rend capable d'apprentissage, de progresser. Pensez à ce que l'informatique rend possible depuis quelques dizaines d'années. Or, qu'est-ce que c'est que l'informatique ? C'est la science de l'information, la partie la plus importante dans un ordinateur, c'est sa mémoire. Vive ou morte, mais bon. Sans mémoire, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de culture. La mémoire, c'est aussi ce qui nous permet de tirer les leçons du passé. En retenant ce qui a échoué, on évite de commettre à nouveau les mêmes erreurs même si nous sommes capables à certains moments d'avoir des oublis. J'ai retrouvé une citation, je ne sais pas à qui il faut l'attribuer exactement parce que les sources ne disent pas la même chose, certains l'attribuent à Churchill, d'autres à George Santayana. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et quand on y réfléchit bien, il y a des choses qui se sont déroulés dans l'histoire, qu'on n'a pas du tout envie de revivre. La mémoire, c'est aussi ce qui nous permet d'être fidèles à nos engagements et de ne pas être inconséquents. Un souvenir d'enfance, quelle déception quand papa oublie de réaliser ce qu'il a promis. J'ai raté un match, le LOSC Saint-Étienne, qui m'était promis depuis 6 mois. Les Verts à l'époque. Je suis désolé, je sais que je suis à Lyon, mais enfin bon. À l'époque, c'était les Verts qui avaient la une de la presse sportive. La mémoire, ça nous permet d'être fidèles à nos engagements. Mais il y a des aspects négatifs aussi. Le souvenir d'un traumatisme peut nous faire vivre dans la peur. Juste un exemple, quelqu'un qui a eu un grave accident de voiture, bien, peut avoir beaucoup de mal à reprendre le volant ou même à faire confiance aux conducteurs autour de nous, au point que ça devienne pénible, voire quelquefois impossible de remonter dans une voiture. Le souvenir d'une offense peut développer l'amertume, la rancœur, empêcher la réconciliation et le pardon. Vous n'êtes jamais arrivé de dire ou de penser « Ah, celui-là, je ne suis pas prêt d'oublier ce qu'il m'a fait ». Ça traduit souvent une souffrance, un désir de vengeance aussi parfois. Puis ce qui est embêtant avec la mémoire, c'est qu'on ne la contrôle pas complètement. Bien sûr, il y a des moments où on fait des efforts pour retenir, les étudiants savent ça. Mais la plupart du temps, nous fonctionnons en mode automatique. Et heureusement, d'une certaine façon. Si à chaque fois, il fallait se dire, bon, je pose mes clés, je vais enregistrer l'endroit où je pose mes clés, mais vous voyez comme la vie serait compliquée. Non, on fonctionne en mode automatique. Et certaines personnes retiennent, même sans le vouloir, un très grand nombre d'informations, au point que parfois, ça devient pathologique. J'ai découvert un terme qu'on appelle l'hypermnésie. Hein. L'amnésie, c'est l'absence de mémoire. L'hypermnésie, c'est quand on a trop de mémoire. La définition est la suivante. Le terme d'hypermnésique définit une personne présentant une mémoire exceptionnelle en ce sens qu'elle a une capacité véritablement inhabituelle à retenir des informations, se traduisant par la possibilité de pouvoir restituer avec exactitude et détail des événements passés. A priori, on se dit, mais c'est une sacrée chance d'avoir une mémoire pareille. Hein ? Et pourtant, les hypermnésiques sont des gens qui souffrent. Ils ont des troubles de la concentration, ils sont souvent perdus dans leurs pensées, épuisés de se rappeler plein de choses. Sans le vouloir, ce n'est pas contrôlable ce phénomène. Alors, si on comprend bien les défauts, je veux dire, d'une absence de mémoire, un excès de mémoire, c'est aussi quelque chose de nuisible. Et comme souvent, eh bien, tout est question d'équilibre. La mémoire peut aussi nous maintenir dans une condition ancienne. Nous avons connu dans notre église du Nord un enfant de quelques années qui a fait une leucémie. Aujourd'hui, il a plus de 20 ans. Ça lui pose encore des problèmes. Quand il veut s'assurer, quand il veut contracter un prêt bancaire, eh bien, on se souvient qu'il a été malade. Et pour une compagnie d'assurance ou une banque, eh bien, ce n'est pas un bon risque. Donc soit on va lui refuser, soit on va lui imposer une prime, une surprime importante. Une photo postée sur les réseaux sociaux, qu'on trouve amusante un jour, peut devenir quelquefois très gênante quelques années plus tard. Personnellement, je conseille à mes étudiants, avant de s'inscrire au concours, de vérifier que le nom de leur adresse e-mail fait pas sourire ou ne donne pas d'eux un portrait. Vous savez, ils ont choisi leur adresse, ils avaient 12 ans, quoi. Ils ont trouvé ça marrant. Mais quand il s'agit d'écrire un courrier officiel et tout, bon, ça peut être embêtant. D'ailleurs, la société a pris conscience de ça, puisqu'il y a à peu près un an, il y a une loi qui a été votée sur ce qu'on appelle le droit à l'oubli numérique, qui permet à toute personne de demander le retrait de certaines informations qui pourrait lui nuire sur des actions qu'elle a faites dans le passé. Bon, c'est pas facile à mettre en place parce que l'information circule, elle est mémorisée, on ne sait pas où, et de là, elle est effacée toutes les traces. Mais en tout cas, on a été conscient du problème. Et bien, de la même façon, dans notre vie spirituelle, il y a des choses bonnes à se rappeler, mais d'autres dont le souvenir nous poursuit et dont nous voudrions nous libérer. Deuxième point, il peut nous arriver de penser ou de craindre que Dieu nous oublie. Alors, bien sûr, quand on y réfléchit raisonnablement, on se dit « non, Dieu n'a pas de trou de mémoire ». Et pourtant, lequel d'entre nous n'a jamais prié Dieu en lui rappelant une requête pas encore exaucée ou le sentiment d'être un peu oublié? Nous n'aimons pas attendre. L'attente, pour nous, ça peut être une occasion de douter, de craindre. Je citerai par exemple Job. « Oh, souviens-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle. » Job est convaincu que tout ce qui lui arrive vient de Dieu, hein, mais il dit « bon, hey, doucement, doucement, je ne suis qu'un homme. Rappelle-toi que je ne suis qu'une faible créature. C'est humain, on ne va pas lui jeter la pierre, mais comme si Dieu avait oublié ça. » Ou le roi Ézéchias, encore dans 2 Rois 20, « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Il est à la fin de sa vie et il pleure abondamment. « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait, hein, ne m'oublie pas, n'oublie pas ma récompense. » Ou Habacuc, « Jusque à quand, Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Alors que répond Dieu dans ces cas-là? À Ézéchias, il dira « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, j'ajouterai 15 années à ta vie. » C'est une réponse tout à fait exceptionnelle. Hein. C'est pas quelque chose, systématiquement, vous priez, bing, 15 crédits plus. Quoi. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Beaucoup ont formulé le même type de demande sans être exaucés, mais elles montrent que Dieu n'oublie pas notre service pour lui, quand bien même nos circonstances pourraient nous le faire penser. À Habacuc, Dieu va répondre « Je vais faire en ce jour une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu répond aux peurs et à l'incompréhension d'Habacuc « Ne t'inquiète pas, je suis aux commandes, je sais ce que je fais et je le ferai en mon temps. » Au psaume 100, on peut lire « Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, de génération en génération, il reste fidèle. » Dieu est bon, Dieu est amour, nous n'avons pas à craindre d'être oubliés. Mais paradoxalement, il y a des choses qu'on aimerait bien que Dieu oublie. Psaume 25, verset 7, « Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. » Et la réponse de Dieu, pas à ce psaume proprement dit, mais à cette pensée, on la trouve dans Hébreux 8 ou Hébreux 10, « Je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Dieu n'a pas voulu que nous vivions constamment dans le souvenir de nos fautes. À nous donc de saisir son pardon. Christ a dit sur la croix, « Tout est accompli. » Nous n'avons rien à ajouter. Rien de ce que nous faisons ne peut racheter ou effacer nos fautes. On ne paie pas une deuxième fois une facture déjà acquittée. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pardonner à quelqu'un et que cette personne revienne vous demander pardon? Bon, ce n'est pas tellement l'habitude hein, d'aller demander pardon. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Hein, mais dans une église, en tout cas, ça peut arriver. Et comment est-ce que vous avez réagi ou comment vous réagiriez si ça se produisait? Je crois que la première fois, vous lui direz, écoute, c'est bon, je t'ai pardonné. Hein, tu peux... Imaginez que la personne vienne une troisième fois, une quatrième, une cinquième fois vous dire « Tu sais, je te demande pardon. » Vous allez commencer à vous dire « Mais bon, je sais qu'il n'est pas sourd, donc est-ce qu'il ne croit pas ce que je lui dis? Est-ce qu'il met en doute la sincérité de mon pardon ?» Bon, on serait agacé, non? Alors, bon, Dieu n'est pas comme nous, hein, heureusement. Mais imaginez un peu, si sans cesse on revient sur la même chose pour lui demander pardon 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je crois que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment compris le pardon de Dieu. Dieu n'oublie pas le méchant qui persévère dans la méchanceté. Mais revenir sans cesse sur des péchés confessés, je dis bien confessés, pour lesquels on s'est humilié, pour lesquels on s'est repenti, c'est mettre en doute le pardon de Dieu ou tenter de le mériter. Et ça, c'est hors de notre portée. Ça va nous user et on va rater le but que Dieu avait fixé, c'est-à-dire oublier nos péchés. Les péchés confessés, ça fait partie des choses qu'il nous faut oublier. Alors notre nature est telle que, en tout cas la mienne, j'oublie jamais complètement. Je crois qu'à force de prier, parce que ça ne se fait pas tout seul, on finit par avoir quand même une délivrance de certaines choses. On peut essayer d'oublier et être reconnaissant pour le pardon. Ça nous encourage à aller de l'avant, alors que ce souvenir de nos fautes, ça nous enfonce tout le temps. Et ça nous bloque là où on est. Et puis je me dis qu'il faut aussi savoir oublier les péchés pour lesquels on nous a demandé pardon. Si on a été offensé par quelqu'un et que cette personne s'est repentie et a demandé pardon, eh bien de la même façon, nous devons lui pardonner et oublier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Par contre, la parole nous invite à ne pas oublier le mal que nous avons fait à autrui. Une lecture dans Matthieu 5. Supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Je ne sais pas si nous sommes tous 100% identiques, mais j'ai une assez grande facilité à considérer que mes torts sont plutôt moindres que ceux de l'autre. Et voire à les oublier sans trop d'efforts. Comptez un peu sur le temps qui passe, ça va atténuer les choses. Est-ce qu'on ne dit pas que le temps guérit tout? Ben non, ça c'est pas biblique. La politique de l'autruche, ça mène à rien. Sans pardon, l'offense n'est pas effacée. Puis je me suis demandé comment il faut comprendre si ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors je me dis, il y a au moins deux situations qu'on peut envisager. Vous avez blessé un frère ou une sœur et vous le savez, vous en êtes rendu compte. Alors ce verset vous invite à reconnaître au plus vite vos torts, à aller voir votre frère ou votre sœur et à faire la paix. Mais il y a une deuxième situation qui peut se produire, je l'ai vécu personnellement, c'est que vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous rendez compte que votre relation avec quelqu'un, c'est plus ce que ça a été. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, mais vous rendez compte qu'une personne qui vous saluait tous les dimanches à la fin du culte, ben, elle oublie de venir vous saluer. Alors, ce n'est pas une faute en soi, hein, je veux dire, il n'y a pas... Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh bien, je pense que ce texte nous dit aussi d'aller vers cette personne et de ne pas faire comme si on n'avait rien vu. Pour essayer de réparer, même si pour l'instant on ne sait pas quoi, mais au moins, ne pas laisser la chose en l'état. On lit dans Hébreux 12, au verset 14 et 15, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » En Proverbe 17, on peut lire aussi « Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. » « oublier les péchés confessés, mais ne jamais oublier la gravité du péché. Nous savons bien que Dieu pardonne aux pécheurs qui se repentent, mais qu'il haït le péché. Habacuc encore qui dit « Ses yeux sont trop purs pour voir le mal ». N'oublions jamais que le salaire du péché, c'est la mort suivie du jugement. Combien de nos contemporains croient encore qu'il y aura un jugement ? Je pense que s'ils en étaient convaincus, beaucoup changeraient de comportement. Et j'y vois là une raison impérative d'annoncer la parole dans sa totalité. Benjamin l'a évoqué dans sa présidence, « Nous n'irons pas tous au paradis », comme certains l'ont chanté. C'est pas vrai. Le péché, c'est grave, ça a des conséquences, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est une vérité à ne pas oublier. Parce qu'elle nous montre les véritables enjeux de notre passage sur cette terre. Pour les croyants, la parole nous dit « Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ ». Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. Là, il n'est pas question de juger de vie ou de mort, puisque les croyants ont la vie éternelle, mais il est question de la récompense pour les œuvres. Pour les non-croyants, il en va de leur vie ou de leur mort pour l'éternité. Une chose à ne pas oublier aussi, c'est Paul qui le dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité. » Quand on pense à Jésus, on ne peut pas oublier qu'il a donné sa vie pour nous et qu'en faisant cela, il nous a gagné la vie éternelle. On ne peut pas oublier l'énormité du prix acquitté par Dieu pour nous racheter. L'oublier, ce serait l'offenser et faire peu de cas du sacrifice de Jésus. Si nous oublions la gravité du péché, nous risquons également de perdre la joie du pardon. Si on ne mesure pas à quel point Dieu a été bon pour nous, eh bien je pense qu'on a plus de difficultés à se réjouir d'être sauvé. Être conscient de la valeur d'un cadeau nous aide à l'apprécier. On pense au prix du cadeau, ah, il s'est fondu cette fois-ci, ou au temps que la personne a consacré pour le faire, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a confectionné de ses mains, ça peut être un repas, ça peut être autre chose. Ça, ce sont des signes de l'affection que nous porte la personne qui nous offre ce cadeau. Eh bien Dieu, lui, ne nous a pas fait un cadeau qui lui coûtait rien, il ne nous a pas fait un cadeau bon marché. Il nous a donné son Fils unique. Et quel plus grand sacrifice que de donner son Fils. Est-ce que le plus grand sacrifice dans la Bible, ce n'est pas celui d'Abraham, qui était allé jusqu'à, dans sa tête, à se dire « Dieu pourvoira ». On remarquera au passage que Dieu n'a pas demandé la vie d'Isaac en sacrifice. N'oublions pas le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes des rachetés. Une lecture dans Ésaïe 44 maintenant pour aborder le point suivant. Israël, peuple de Jacob, souviens-toi de ceci, tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour que tu sois à mon service. Ici nous voyons notre identité. Israël, je ne t'oublie pas, j'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme un brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Étymologiquement, péché signifie manquer la cible. Pour ne pas pécher, il est donc nécessaire de connaître cette cible et de la garder constamment en mémoire. Les militaires utilisent un terme très parlant, je trouve, quand ils parlent de verrouiller la cible. Vous avez dû voir ces images, on voit ça maintenant à la télé quand on lâche une bombe guidée laser. On voit la cible et on voit que quoi qu'il se passe, bien, si c'est un missile, il va poursuivre sa cible pour l'atteindre. Dieu nous a créés pour être ses serviteurs. C'est ça la cible. Pas ses esclaves, parce qu'il nous appelle ses enfants, dans certains passages ses amis. Et de tels propos seraient inacceptables s'ils venaient d'un homme. Mais là, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous a créés pour être ses serviteurs. Il est à la fois notre créateur, celui qui nous a rachetés, et c'est pour cela qu'il est légitime lorsqu'il nous dit « Je vous ai créés pour être des serviteurs ». Pardon si cette liste fait un peu catalogue, mais Dieu nous invite également à ne pas oublier ce qu'il appelle notre premier amour. On le trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 2, il dit à une église « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » À la lecture des premiers versets, on pourrait se dire que le bilan de cette église n'est pas si mauvais, après tout. Œuvre, travail, persévérance, discernement, fidélité dans l'adversité. Est-ce qu'on peut en dire autant ? Pourtant, Dieu lui fait un reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Et là, si vous permettez, je vais partager avec vous un commentaire que j'ai trouvé dans ma Bible qui explique ce passage de la façon suivante. Paul a fait l'éloge de l'église d'Éphèse pour son amour envers Dieu et envers les autres, notamment dans l'épître aux Éphésiens. Depuis, plusieurs des fondateurs de cette assemblée sont morts et beaucoup de croyants de la deuxième génération ont perdu leur zèle pour Dieu. Et je pense que quand on pense à l'histoire d'une église dans le temps, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé pour d'autres. Cette seconde génération donc continue d'entreprendre de nombreuses actions en faveur de leur communauté et leur église est très active, mais leurs motivations sont fausses. Le travail pour Dieu doit être motivé par l'amour de Dieu, sinon il ne durera pas. Enlever le chandelier de sa place, comme c'est dit à la suite de la lettre, c'est indiquer que l'église a cessé d'être efficace. Les églises doivent éclairer leur environnement. Jésus avertit que leur lumière peut diminuer, voire s'éteindre. Et ça, quand on pense à l'histoire de l'église, on voit effectivement que l'histoire de l'église, c'est une succession de mouvements, de réveils, et puis d'églises qui ont été brillantes à certains moments, au sens d'éclairantes, et qui disparaissent dans l'histoire. C'est une chose à ne pas oublier, sous peine d'être condamné à le revivre, on disait. Comme il nous est facile d'être absorbés par nos tâches quotidiennes, de nous contenter de vivre notre foi entre nous, dans notre communauté, cette lettre dit à chaque église, n'oubliez pas d'être la lumière du monde, n'oubliez pas de répandre la bonne nouvelle. Et quand on dit l'église, vous savez ce que c'est que l'église. Ce n'est pas les 5 responsables de la rue Sonnera, c'est tous les membres qui composent la grande église dont Sonnera est un élément. L'Écriture nous invite également à nous souvenir des interventions de Dieu dans l'histoire pour nous encourager lorsque nous désespérons et que nous trouvons le temps long. Je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi, combien de fois Paul, lorsqu'il expose la doctrine, commence par remonter à chaque fois aux origines d'Israël. Moi, je vous avoue que les premières fois que j'ai lu ma Bible, j'avais 25 ans, et il y a des moments où je me disais, bon, Paul, quand même, on connaît tout ça, quoi. Tous les gens à qui tu le dis, bon, j'ai changé de point de vue depuis, hein, je veux dire. Se rappeler ce que Dieu a fait. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force, de sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les peuples que tu redoutes. Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père, et il t'apprendra, les vieillards, et ils te le diront. Nous sommes nous aussi appelés à nous rappeler des interventions de Dieu dans nos vies, à construire dans nos mémoires l'équivalent de l'autel de pierre qu'édifia le peuple juif après avoir traversé le Jourdain et son entrée dans la terre promise, pour marquer le souvenir d'un événement important. On a eu des baptêmes il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, le baptême, c'est un point de repère, un engagement qu'on a pris. Et comme je le disais en introduction, la mémoire, c'est là pour nous rappeler nos engagements aussi. On a chanté tout à l'heure « J'ai choisi ». Alors, on a envie de chanter ces paroles, on a envie de dire « J'ai choisi ». Mais en même temps, il faut se souvenir qu'on les a chantées. Il va falloir être conséquent avec les engagements qu'on a pris. Alors, on sait bien qu'on n'est pas parfait, qu'on n'arrive jamais à remplir à 100% les engagements qu'on prend. Mais souvenons-nous. Se souvenir que Dieu agit, c'est réconfortant. C'est plus souvent dans le passé qu'on arrive à voir que Dieu agit. Au jour le jour, c'est difficile de savoir aujourd'hui comment il agit pour moi et pour vous. Moi, personnellement, je vois mieux qu'il a agi plutôt que de le voir agir aujourd'hui. Ça peut nous aider à lui faire confiance. Et puis Dieu nous adresse aussi quelques exhortations pratiques où il nous dit « Souviens-toi ». Par exemple, dans l'Ecclésiaste, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Alors bien sûr, ce verset s'adresse avant tout aux jeunes. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse ». Mais il nous dit aussi de ne pas tarder à faire les bons choix. À trop tarder, on prend le risque de se laisser charmer par le monde et de ne jamais prendre la décision de suivre Dieu et de lui soumettre nos vies. C'est maintenant le jour favorable, c'est maintenant le jour du salut, nous est-il dit dans la seconde épître aux Corinthiens. On prend vite l'habitude de remettre à plus tard une décision. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quand on a un projet, on avance dedans, puis quelquefois on manque un peu de temps pour le terminer. Puis il y a 2 mois qui passent, 3 mois, 6 mois. Ben moi, mon expérience, c'est quand un projet n'est pas abouti au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, il n'est pas abouti non plus. Donc, souviens-toi, durant ta jeunesse, souviens-toi aujourd'hui de ton Créateur. Dieu nous demande aussi de ne pas oublier l'hospitalité. Car, est-il dit, en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. C'est amusant de penser que parmi les gens qu'on a reçus chez nous, il y a peut-être des anges. Je me garderai bien de donner des noms. Je veux me fâcher avec personne. Et puis un autre verset que je cite parce qu'il fait écho à l'actualité. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. L'esclavage est revenu dans l'actualité brutalement, là, hein, il y a un mois. Et puis ça fait quelques années qu'on entend parler des migrants aussi. Accueillir des gens chassés de leur pays par la guerre, est-ce que ça n'est pas manifester l'amour de Dieu? Pourtant, on entend souvent dire, on n'en veut pas chez nous. Alors, je ne veux pas fustiger plus un parti qu'un autre, plus un pays qu'un autre, mais on voit bien, je veux dire, par exemple, en Allemagne, toutes les difficultés d'Angela Merkel pour avoir ouvert les portes aux migrants. Je voudrais simplement vous dire, est-ce qu'on imagine Jésus tenant de tels propos? N'oubliez pas l'hospitalité. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, c'est l'épître de Jacques qui dit cela, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il ? » Les bonnes paroles, les encouragements, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Une anecdote, un jour un chrétien adressa une carte d'encouragement à une personne qu'il savait dans la difficulté matérielle. Et puis comme souvent, il avait pris une carte, vous savez, sur laquelle il y avait un petit verset d'encouragement. Il avait mis un petit mot amical. Puis il y avait ajouté un billet de 100 francs. Vous voyez, ça commence à dater, c'est 15 euros aujourd'hui. Puis quelques jours plus tard, il a reçu un petit mot, lui aussi, de remerciement qui disait « Je connaissais bien ce verset, mais, en parlant du billet, le commentaire est le plus pertinent que j'ai jamais eu à connaître. » C'était de cela qu'il avait besoin ce jour-là, plutôt que de réentendre la parole de Dieu qu'il connaissait. Alors j'en arrive à la conclusion. Dans l'épître de Jacques, c'est une lecture un peu longue, si quelques-uns veulent, enfin longue, 5 versets, je vous rassure. Hein. Si quelques-uns veulent le suivre en direct dans leur Bible, Jacques 1 au verset 19. Je laisse à ceux qui veulent le temps de trouver la référence. Jacques 1, verset 19. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Alors, au moment de souhaiter de présenter des vœux de bonheur, ben là on a une recette, pas une recette magique, mais une promesse d'être heureux pour ceux qui lisent la parole, qui se regardent et qui tentent de la mettre en pratique. Deux lectures enfin de l'apôtre Paul, dans Philippiens 3 au verset 13. Non, frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Paul nous invite à ne pas oublier quel est le véritable but que nous poursuivons, laisser ce qui est sans importance et rechercher les choses d'en haut. Dans 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Au verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Voilà mes vœux pour vous, pour l'Église. Pour moi, c'est que cette année 2018 nous permette d'être agréables à Dieu. Amen.